c'est à cause de toi si j'ai une mauvaise note, ou c'est à cause des profs. De toute façon, ils ne savent pas enseigner, ils ne sont pas adaptés, ils n'y comprennent rien, etc. C'est toujours à cause des profs. Voilà. À l'adolescence, c'est à cause des parents, vous connaissez ça aussi. Enfin, il y a toujours une cause, c'est à cause d'eux. Un sentiment négatif, de culpabilité envers l'autre, d'accusation, de défaite. Et puis, il y a une autre expression, c'est « grâce à ». Grâce à. Ah oui, ça c'est meilleur ça. Il y a d'abord le mot « grâce » dedans. Hein, mais c'est, grâce, c'est plutôt un sentiment de reconnaissance, de victoire, hein, d'encouragement. Ah, c'est grâce à toi qu'on a gagné le match. Bon, c'est quand même déjà mieux. C'est grâce au prof qui nous enseigne bien, bien que j'ai pu voir ma connaissance augmenter. C'est super, ça, pour les profs, hein, d'être ainsi encouragé. C'est grâce à mon patron qui me donne de bonnes conditions de travail que je peux m'épanouir au travail. C'est pas mal, ça aussi. Et ça peut arriver d'avoir également des bons patrons, comme d'avoir de bons ouvriers. Et puis l'inverse, oui, c'est à cause de mon patron, le patron, c'est à cause des ouvriers, etc. Et tout cela, finalement, pour exprimer deux sentiments qui sont soit positifs, soit négatifs. Le récit qu'on va lire, je me suis posé justement ces deux questions, va nous aider finalement à nous rappeler que Dieu peut même se servir de ce qui est, ce qui nous semble, négatif, insupportable, en quelque chose de constructif, en quelque chose pour nos vies qui va nous aider à grandir. Passer du « à cause de » au « grâce à ». Passer du « à cause de » au « grâce à ». Avec ce beau verset qui peut faire le lien, hein, c'est dans Romains 8, 28, vous le connaissez par cœur, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » ou la même version, la même pensée, « Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment ». C'est-à-dire que même dans nos réactions, parfois qui peuvent être justifiées, c'est à cause d'eux, eh bien Dieu peut s'en servir pour nous aider ensuite à pouvoir dire cette pensée, mais c'est grâce à. Et avec le même événement, avec la même personne, avec les mêmes causes, du à cause de, négatif, au grâce à. Et on va expliciter ces deux pensées avec ce texte. Alors, on va relire quelques versets, hein, dans Jean 4. Voilà ce qu'il est dit. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. La rumeur, hein, des fois elle va vite, la rumeur. Hein. Il y a un truc extraordinaire. Hein. Voilà. Alors il quittait la Judée et retournait en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. On va s'arrêter avec Jésus, si vous permettez l'image, quelques instants, au bord du puits de Sichar, là, avec cette première pensée. C'est à cause de sa fatigue que Jésus va s'arrêter. Et puis, c'est grâce à sa fatigue qu'il va rencontrer une femme. C'est à cause de sa fatigue que Jésus va s'arrêter, mais c'est grâce à sa fatigue qu'il va rencontrer cette femme. La fatigue, vous connaissez, hein, je ne sais pas si ce matin vous êtes arrivé au culte. Ça peut arriver, hein. On peut arriver même le matin fatigué, parce que bien, on a passé tout simplement une mauvaise nuit, mais si on a passé une mauvaise nuit, c'est parce qu'on est peut-être malade, parce qu'on est perturbé, parce qu'on est agité, etc. Et ce n'est pas du tout un reproche, la fatigue, on la connaît tous à un moment donné ou à un autre. On le sait. Et ici, Jésus, je vais dire ça comme ça, est vraiment fatigué du voyage. Excusez-moi la comparaison, ce n'est pas du cinéma. Jésus est fatigué. Alors, je ne sais pas quelle image parfois on peut avoir de Jésus, hein, mais on pourrait penser, être étonné que Jésus s'arrête parce qu'il est fatigué. Où donc est celui qui commande au vent et à la mer de s'arrêter lorsque ceux-ci sont déchaînés? Où est celui qui commande aux esprits méchants de quitter les corps? Où est celui qui multiplie les pains? Où est celui qui guérit, qui enseigne? Où est Jésus? Il semble que ce soit contradictoire. Jésus qui est tout puissant, qui ordonne. Et puis là, Jésus qui s'arrête parce qu'il est fatigué. Il aurait pu peut-être demander à son Père céleste, là, au moment-là, bien, d'être renouvelé pendant la marche. C'est écrit dans Ésaïe, hein, que ceux qui marchent sont renouvelés justement pendant la marche. Il aurait pu peut-être demander à des anges de venir le soutenir, l'accompagner pendant la marche, le porter, et puis arriver et passer Sichar, passer, traverser la Samarie d'un coup. Bien, pourquoi ? Pourquoi ? On le verra tout à l'heure. Parce que grâce à sa fatigue, il va pouvoir rencontrer cette Samaritaine. Alors, mais pour l'instant, revenons quelques instants sur la fatigue. Elle est bien réelle, comme nous pouvons aussi la vivre. Et je réfléchissais, il y a trois éléments principaux, il me semble, qui font que Jésus soit fatigué à ce moment-là. Il y a le chemin qui est emprunté, il y a les conditions climatiques, et puis il y a la charge qui est portée. Et tout cela, ajouté les uns aux autres, font que Jésus est fatigué. Le chemin emprunté. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël ou dans les pays du Sud, hein, lorsque ce n'est pas goudronné, etc., il y a de la poussière, c'est en plein soleil, peut-être on peut imaginer qu'il monte, qu'il descend ce chemin, et on peut y voir aussi pour nous ce matin bien, le chemin de nos propres vies, avec tous ces obstacles, ces voies sans issue, des chutes, des arrêts, des blessures, peut-être une cheville tordue, etc. D'ailleurs, il y a des expressions hein, en français. Le bout du tunnel. Vous connaissez, hein ? Je ne vois pas encore le bout du tunnel. Être dans l'impasse. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans l'impasse, justement, sur le chemin de la vie. Être un tournant de sa vie, à la croisée des chemins. Et tout ce langage imagé nous rappelle, effectivement, que notre vie, c'est comme un chemin. Et tout cela génère de la fatigue physique, morale, psychologique, nerveuse et spirituelle. Et ce matin, on a peut-être cette raison d'être fatigué parce que notre chemin est difficile, parce que nous passons par un moment difficile dans notre vie. Et Jésus lui-même l'a expérimenté. Les conditions climatiques, le soleil, le vent, hein, sont les deux principaux éléments qui fatiguent, hein, qui usent la peau, le corps, etc., qui suscitent bien sûr la soif. Et Jésus bien, n'est pas étranger à ces conditions climatiques. La Bible nous parle d'un adversaire qui nous fatigue, qui nous use. C'est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Hein, et qui souffle son mauvais esprit, bien pas simplement sur les incroyants, hein, pas simplement sur le monde, mais sur l'Église, sur les croyants aussi. Il y a de cet état d'esprit parfois qui voudrait nous influencer, qui souffle, qui sont des vents contraires. Le diable, lui, cherche à nous détruire, à nous ralentir, à nous fatiguer, à nous user, pour que nous puissions nous aussi nous arrêter de dire, bien, j'en ai assez, je n'en peux plus. C'est une fatigue, bien sûr, qui est spirituelle, mais elle est aussi réelle que la fatigue physique. Et parfois, on n'en est pas toujours conscient. On se dit, mais que se passe-t-il en ce moment ? J'ai l'impression que mes prières ne montent pas plus haut que le plafond. J'ai l'impression que quand je veux m'approcher de Dieu, c'est difficile. Il y a des obstacles. Le prince de la puissance de l'air, qui cherche non seulement à nous inspirer avec son mauvais esprit, mais à souffler des vents contraires pour nous user, pour nous fatiguer. Et peut-être que ce matin, nous sommes aussi fatigués spirituellement. Et puis, il y a la charge qui est portée. Je peux imaginer que Jésus porte un sac en cuir, voilà. Alors il y a peut-être, je sais pas moi, un vêtement de rechange, il y a peut-être une gourde d'eau. Mais même si le sac est un peu léger, quand on fait plusieurs kilomètres, ça devient lourd. Ça devient lourd. Ma fille aime bien en vacances, quand on partait avec elle, avoir un appareil photo autour du cou, un Nikon avec non, j'exagère pour l'objectif. Hein. Ben, alors, apparemment, c'est léger. Et un jour, elle me dit, oh, papa, je suis fatigué avec mon appareil photo. Je dis, écoute, tu rigoles ou quoi ? Alors, je l'ai pris là autour du cou, hein, et puis j'ai fait une demi-journée avec. Ben, c'est peut-être pas très très lourd, je sais pas combien que ça fait, un kilo, deux kilos, hein, j'en sais rien. Mais au bout de la demi-journée, eh bien, quand on n'a pas l'habitude, c'est une charge. Et ainsi, il existe... pour nous, eh bien, un poids qui cherche à s'exercer sur nous. Hébreux 12, 1 nous parle le poids du péché. Voilà, ce péché qui est là et qui veut nous écraser, qui veut nous fatiguer, qui veut nous user, qui veut nous culpabiliser. Et là encore, quand nous sommes confrontés à notre péché, eh bien, on se dit, mais c'est pas vrai. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je connais le Seigneur et j'en suis encore là. Et alors, j'ai l'impression que plus on avance, plus on est sensible et plus ainsi on est malheureux, on est culpabilisé, on est usé, on est fatigué, on dit Seigneur, mais qu'est-ce que je te dise ? J'en suis là encore aujourd'hui. Et à cause de cela, à cause des épreuves de la vie, à cause de l'adversaire de nos âmes, à cause du poids du péché, on peut aussi être fatigué, on peut être usé, voire complètement découragé. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus sait ce qu'est la fatigue. Et ce matin, donc, il veut simplement nous rappeler cette parole de Matthieu 11, 28, vous la connaissez, hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Je sais. Et Jésus ici, il s'est vraiment arrêté au puits de Sichar. Et finalement, eh bien, ce qui était à cause de sa fatigue, Jésus s'arrête. On pourrait dire aussi, c'est que grâce à sa fatigue, eh bien, il va rencontrer une Samaritaine. Les disciples ont laissé Jésus là seul à ce puits pour aller chercher de la nourriture. Lui, il est fatigué, puis bien sûr, bien, il attend le retour des disciples. Et c'est à ce moment-là, en plein midi, hein, comme dit ce récit, qu'une femme va venir. Au verset 7, c'était environ midi, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire ? On va ensuite expliquer les paroles. Mais pour l'instant, bien, on pourrait dire que grâce à sa fatigue, Jésus va rencontrer cette femme. 2 Corinthiens 13, 4, c'est un verset qui est important, qu'on a du mal peut-être aussi à comprendre, qui nous parle de la faiblesse de Jésus. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles, et lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Hein, que veut dire ce verset? Bien que Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, eh bien, c'est parce que Jésus a accompli, on va dire, un voyage particulier. Hein. Il a quitté son ciel de gloire, l'éternité, dans un rayonnement éclatant absolu et parfait qu'on ne peut même pas imaginer, mais qui est une réalité. Et puis, il a quitté ce ciel de gloire pour faire un voyage, là aussi, sur la terre des hommes, confronté à la détresse, confronté à la misère, confronté au péché, etc., etc., pour donner sa vie. Et c'est dans cette faiblesse, dans cette humanité, bien, qu'il va donner sa vie. Et que ce matin, il comprend et il sait exactement de quoi nous sommes formés. Et cette rencontre, finalement, on peut dire ce qu'on veut, elle est quand même à l'initiative de Jésus. Elle est quand même à l'initiative de Jésus. C'est lui qui est venu aussi vers cette femme qui était là, et puis c'est lui qui est venu aussi vers nous. Dans Romains 5, 6, il est dit ceci, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les pécheurs. » Et finalement, ici, c'est comme si Dieu transformait le « à cause d'eux » en « grâce à ». Juste une remarque, hein. Même fatigué, physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement, Dieu peut se servir de nous pour partager notre foi. C'est extraordinaire quand même. Hein. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je dise au travail? Je suis fatigué, je suis exténué. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Dieu est grand. Et dans notre faiblesse, avec notre faiblesse, malgré notre faiblesse, Dieu aussi peut se servir de nous pour partager notre foi. Jésus ici, eh bien, il est fatigué. Il aurait pu dire, oh là là, moi je dis rien. Elle arrive, elle prend son seau, elle le jette dans le puits qui était assez profond. Hop, elle repart. Moi j'attends mes disciples, etc. Mais ce n'est pas Jésus. Et ce matin là aussi, eh bien, rappelons-nous 2 Corinthiens 12, 9. Hein, ma grâce te suffit. C'est grâce à. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi, à cause de notre fatigue, peuvent se transformer en grâce à ma fatigue. Grâce à ma fatigue. Il y a des moments où nous avons été malades. Et on pourrait dire, à cause de notre maladie, on a souffert, on s'est arrêté, on s'est posé des questions. Peut-être. Mais peut-être aussi que grâce à notre maladie, On a peut-être été même jusqu'à être hospitalisé. Et là, sur le lit d'à côté, dans la même chambre, on a pu témoigner, dans la même souffrance que le voisin, étant au même niveau que lui, eh bien, on a pu témoigner de notre foi, où quelqu'un nous a rendu visite, et puis cette personne entend une conversation, il a vu à un moment donné que les deux personnes s'inclinaient pour prier, et après on a posé des questions. Le « à cause d'eux » s'est transformé en « grâce à ». Et qui sait si après avoir rendu ce témoignage, cette personne qui était à côté, dans le lit à côté, est partie dans sa famille à témoigner comme cette femme. Ça, on ne sait pas, mais on a semé. On a semé, parce que ce n'était plus à cause d'eux, mais grâce à, eh bien, Dieu s'est servi de nous pour être un témoin. Deuxième pensée pour nous ce matin, on lit la suite, c'est Jésus qui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Une femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. La deuxième pensée ce matin pour nous, c'est que à cause de sa parole, Jésus est incompris. « Donne-moi à boire. Comment toi ?» Mais, grâce à sa parole, eh bien, cette femme va découvrir qui il est réellement. À cause de sa parole, Jésus est incompris. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Et tout de suite, la réponse tombe directement. Mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Et il y a une petite explication pour nous, hein, avec 2000 ans d'écart et puis une culture différente. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et on aurait pu ajouter, les samaritains, en effet, n'ont pas de relation avec les juifs. C'était réciproque. C'était une haine réciproque entretenue depuis des siècles et des siècles. Et je vous le dis souvent, hein, pour marquer cette belle inimitié, cette haine majestueuse, il y avait cette belle prière de tout bon juif trois fois par jour, « Je te loue, Seigneur ». Alors, je vous le dis avec humour, je ne sais jamais dans quel sens. Hein, c'était « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis ni une femme, ni un chien, ni un samaritain ». Ah oui, mesdames, hein, elle avait quand même tiré le gros lot, hein, une femme samaritaine. « Je te loue, Seigneur, trois fois par jour, ni un chien, ni une femme, ni un samaritain, une samaritaine, etc. » Bon, voilà l'inimitié, la haine farouche, hein, de ces deux communautés. Et bien sûr, lorsque Jésus lui dit « Donne-moi à boire », c'est une parole que cette femme ne peut pas comprendre. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, tu me demandes il y a une divergence religieuse, il y a une haine ancestrale, etc., qui est là, qui est inculquée, et ça ne peut pas le faire. Il y a peut-être aussi parfois certaines paroles de Jésus ou de la Bible qui nous semblent incompréhensibles, d'un autre temps, que nous ne comprenons pas, qui n'entre pas dans notre mentalité, qui n'entre pas encore dans nos valeurs. Et là, on est un peu comme cette femme samaritaine. On dit, mais Seigneur, comment tu me parles? Qu'est-ce que tu me dis? Je ne peux pas, là. Je ne peux pas. Quelques exemples. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, je dis au Seigneur, humainement, moi, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si vous pardonnez, on a entendu parler du pardon aux hommes, leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aussi aux hommes, notre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Ah Seigneur, moi je prends juste la première partie du verset. Hein? Voilà. Moi je... Et puis il y en aurait d'autres ce matin. Il y a des moments dans nos vies où on dit Seigneur, mais non, je ne comprends pas ou je ne veux pas comprendre ce que tu dis. C'est impossible, ça ne rentre pas dans ma conception. Comment veux-tu que je vive ces paroles? C'est impossible, Seigneur, pour moi. C'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Alors que faire? Eh bien, que va faire Jésus face à ces incompréhensions? Eh bien, il va faire usage de pédagogie. Il va adapter sa parole à notre situation pour la rendre plus compréhensible, pour que nous puissions ensuite, grâce à elle, pas à cause d'elle, eh bien, nous puissions, comme cette femme, l'accueillir, le rencontrer, le découvrir tel qu'il est, avoir une qualité d'intimité de plus en plus profonde, de plus en plus personnelle avec lui. Oui, on peut être choqué parfois de certaines paroles que nous lisons dans la parole de Dieu qui nous dérangent. Ne restons pas sur les « à cause d'eux ». Ne restons pas « comment Seigneur, c'est écrit ça, mais c'est incompréhensible, mais laissons Dieu le transformer en grâce à, grâce à cette parole. Je vais comprendre un peu mieux le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, sa pédagogie, ce qu'il veut pour moi. » Jésus va dire par exemple, Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. » Et qu'est-ce que dit Jésus à cette femme samaritaine ? Eh bien, il va prendre l'image qu'il a bien sûr devant lui, hein, cette image de cette eau, et il parle bien sûr non pas d'une autre eau, qualité d'eau, une autre marque d'eau, hein, mais il parle bien sûr de cette eau vive, de sa parole, de la vie éternelle et qui jaillit du cœur. Et ainsi, bien, il nous rappelle ce matin que lorsqu'on laisse les paroles de Jésus et de dire, ce n'est pas à cause de sa parole, mais grâce à sa parole, entrer dans notre cœur, alors il y a cette qualité d'eau, de parole, d'état d'esprit, de mentalité qui va jaillir de notre cœur et qui va rafraîchir, qui va inonder. Ah Seigneur, ce matin, c'est à cause de ta parole que je vais au culte. Alors oui, c'est sûr qu'on va y aller, mais on va y aller comment ? Par contre, si on dit « Seigneur, c'est grâce à ta parole que je vais au culte », là, ça change quelque chose quand même. Ça change quelque chose. Ah Seigneur, oui, c'est à cause d'un tel ou... On y verra tout à l'heure d'ailleurs. Mais Seigneur, c'est grâce à ta parole ce matin que je me retrouve avec mes frères et sœurs. C'est grâce à ta parole que je suis pardonné. C'est grâce à ta parole que je peux là aussi m'épanouir. Merci Seigneur. Et Dieu va transformer nos « à cause de » négatif, accusation, en grâce. Grâce à ta parole. On a tous posé un jour ces questions existentielles dans nos vies, mais est-ce qu'il y a un sens dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Pourquoi il y a un vide au fond de moi ? Etc. etc. Hein, mais ce matin, bien, le Seigneur nous rappelle quelque chose. Et il y a une belle image, c'est le psaume 42, verset 2. Je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. Le psaume 42, verset 2, c'est une image, justement, de cette soif spirituelle. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer à cette femme samaritaine. Et il est beau ce verset. Alors il commence, psaume 42, « Comme une biche soupire après des cours d'eau ou des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Voilà. Et puis ensuite, hein, « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant ta face de Dieu ?» C'est grâce aux paroles, là aussi, hein, que David avait dans son cœur, des paroles de Dieu qu'il méditait, qu'il voulait vivre, et bien que ce torrent va jaillir de son âme. Que Dieu nous aide encore ce matin à laisser parfois nos « à cause de ta parole, Seigneur, regarde où j'en suis » en « grâce à ta parole, Seigneur, regarde où j'en suis ». Vous connaissez cette histoire, hein, de deux cordonniers qui... à une certaine époque, arrive dans un continent africain. Et là, il y a deux réactions. Le premier dit, et envoie ça à l'époque des télégrammes, hein, bon, on va dire qu'il en envoie un SMS, et à son patron européen, il dit, bien, à cause ici de la pauvreté, eh bien, je rentre en Europe parce que personne n'achètera de chaussures. Et l'autre va dire ceci, bien, grâce à la pauvreté, je vais m'adapter, et beaucoup de monde vont acheter des chaussures. Il y en a un qui avait vu, moi je ne pourrais pas baisser mes prix, etc. Et il rentre, et l'autre avait vu un marché extraordinaire. À cause d'eux ou grâce à. Le frère Rickenbach chantait un petit chant, tout ça, ça dépend comme on voit les choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant. Hein. Et que ce matin, là aussi, nous puissions dire, quand nous ouvrons la parole du Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui disent à cause de ta parole, mais grâce à ta parole, aujourd'hui. Eh bien, quelque chose va se passer dans ma vie. Et puis, une dernière pensée, on va lire dans Jean 4, un petit peu la suite. Jean 4, voilà ce qu'il est dit. Alors, il y a tout ce dialogue avec l'eau vive, etc. Et puis, au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ? Ou pourquoi pars-tu avec elle ? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville. On va arrêter là pour l'instant. Et on pourrait dire que ici, eh bien, à cause des disciples, cette femme va s'en aller. Elle va s'en aller à cause des disciples, mais grâce à cette foi de la même valeur que les disciples, elle va témoigner dans tout son village et permettre eh bien, qu'une multitude vienne rencontrer Jésus. À cause de ses disciples, ici, eh bien, il est dit que c'est le moment où cette femme va partir. On peut imaginer, bien sûr, que cette femme qui vient de rencontrer Jésus, c'est tout récent, c'est dans la minute, ne veut pas non plus aborder le regard des disciples. Ce sont aussi de bons juifs. Et là, ils ne sont pas tout seuls, les disciples, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Et elle se dit, bon, c'est le moment de partir. Avec Jésus, ça s'est bien passé, j'ai reçu quelque chose. Moi, ces disciples, je ne les connais pas. En plus, il semble quand même qu'ils soient étonnés, et je ne suis pas étonné qu'ils soient étonnés, puisqu'on n'a pas de relation les uns avec les autres. Donc cette femme ne veut pas une confrontation avec les disciples, elle ne veut pas gâcher ce qu'elle a reçu, elle préfère s'en aller. Elle préfère s'en aller, hein, quitter, bien sûr, les lieux. Elle ne les connaît pas, et donc elle préfère quitter ce moment. Il peut arriver qu'à cause d'autres chrétiens, eh bien, parfois on puisse aussi quelque part se priver de la présence de Jésus, quitter un moment, on est déçu, on se sent jugé, on a peut-être été aussi trahi, on pensait que tel ou tel frère ou sœur, hein, y avait Dieu, et puis après il y avait le frère et la sœur. Voilà. Et puis ça se passe souvent quand on est jeune converti. On est tellement enthousiaste, hein, quand on vient dans l'église que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est spirituel, etc. Et c'est bien quelque part d'avoir cette foi un petit peu naïve. Bon, mais avec la grâce de Dieu, hein, on peut continuer parce que bien, on peut être déçu, on peut avoir été trahi à cause de paroles, de comportements, etc. Et puis là, à cause de lui, à cause d'elle, si c'est ça être chrétien, hein. Moi, je ne remettrai plus les pieds, on va dire, dans l'église. Moi, je ne fréquenterai plus ce groupe. Je vais aller voir ailleurs, etc. Et je le répète, on peut être déçu. D'ailleurs, on se déçoit tous un jour ou l'autre, les uns les autres. Hein, on le sait, c'est un fait. Et puis, on peut associer Dieu à cette histoire. Oui, Seigneur, ben, quelque part, c'est à cause de toi, etc. Et finalement, bien, on est rempli d'amertume, de rancœur, et puis on s'en va. Alors, je répète, ça peut être vrai qu'à juste titre, on puisse être déçu par l'attitude, les paroles, le comportement des autres. D'ailleurs, n'oublions pas que Jésus lui-même l'a vécu. Hein, dans Marc 15, 40, il y a quand même cette déclaration qui est terrible. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus, lui aussi, a été abandonné, a été trahi. Il a été déçu, hein, certainement. À cause des autres, on peut se retrouver aussi parfois dans des situations que nous aurions voulu éviter. Je crois qu'on en a parlé mardi dans l'étude biblique, là. Rappelez-vous Caleb et Josué. Comment ils ont fait ce rapport lorsqu'ils sont partis dans le pays promis? C'était un rapport enthousiasme. Ils étaient là, oui, c'est le pays, Dieu nous le donne, etc. Il y en a dix autres qui ont découragé tout le monde. Et que va-t-il se passer après? Eh bien, tout le peuple, y compris Josué et Caleb, vont tourner en rond pendant 40 ans. Josué et Caleb auraient dit, mais Seigneur, moi je suis pour rien, moi c'est la faute des autres, c'est à cause des autres. Fais-les tourner en rond pendant 40 ans, moi je vais rentrer tout de suite dans le pays premier avec ma famille. Et là, quelque part, on peut dire, ah ben ils ont subi une injustice, c'était pas juste. Bon, pourtant, bien, oui, avec les autres pendant 40 ans, ils ont erré, puis ensuite ils sont entrés, et Dieu s'en est servi de manière particulière pour le pays promis. Paul, dans la tempête, vous en souvenez, on l'a vu mardi. Il s'est retrouvé aussi dans une belle tempête, Paul. Hein. Et ce n'était pas à cause de lui. Il avait averti le patron, les centeniers, etc. Et il se retrouve dans la tempête avec les autres. À un tel point qu'à un moment donné, ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Y compris Paul. Et Dieu va lui faire grâce, nous le savons. Alors, que faire? Comment réagir quand ça nous arrive? Faut-il se résigner, en vouloir à Dieu, à tous les chrétiens, etc.? Eh bien, l'exemple de la Samaritaine va nous aider à déplacer notre centre de préoccupation. Finalement, en effet, même si en voyant les disciples, elle va quitter Jésus, ce n'est que momentanément. Parce que grâce à la foi toute naissante, toute neuve, toute propre, qu'elle vient là aussi de vivre avec le Seigneur, eh bien, cette foi, entre parenthèses, de la même valeur, de la même nature que les disciples. C'est ce même lien désormais qui va les unir, ils sont frères et sœurs en Christ, les Samaritains et puis ses disciples, c'est extraordinaire quand même. Eh bien cette foi toute naissante, elle va lui permettre d'aller témoigner à tout son village, et tout ce village va venir voir Jésus. C'est extraordinaire ça. Grâce à cette foi, grâce finalement à la tête que les disciples ont fait à ce moment-là, eh bien cette femme va partir, c'est vrai. Elle aurait peut-être voulu encore rester avec Jésus, toute seule, pour elle, avec lui, pendant encore des heures et des heures. Mais grâce, quelque part, à l'attitude des disciples, elle va partir au village, avec sa foi naissante, elle va témoigner, et puis tout le village va venir voir Jésus, et ils ont une parole extraordinaire. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais c'est parce que nous avons entendu de lui. Quel miracle, quel changement. Cette femme ne s'est pas arrêtée à l'expression des disciples, mais elle a reçu dans son cœur la parole de Jésus, et elle est ensuite allée partir au village en témoigner. Alors ce matin, si on vit des « à cause d'eux », je répète, qui peuvent être parfois légitimes, est-ce qu'on pourrait laisser Dieu parfois le transformer en grâce à ? C'est pas possible. C'est pas possible qu'à cause d'une personne qui me fasse du mal, tu puisses t'en servir pour qu'il y ait une construction, il y a quelque chose de possible. Ben si, c'est possible. Tout est possible à notre Seigneur. Et j'aimerais terminer par ce texte d'Ésaïe, au chapitre 58, versets 6 à 12, qui est une formidable parole de Dieu pour nous et qui va nous encourager ce matin à persévérer et laisser dans certaines situations le Seigneur changer les « à cause d'eux » en « grâce à ».« À cause d'eux » en « grâce à ». C'est le véritable jeûne. C'est Ésaïe 58. J'aime bien quelque part l'humour de Dieu. Dans le jeûne ici recommandé, c'est Dieu dit « partage ton pain ». Non seulement le juif devait se priver de nourriture, mais en plus partager son pain, qu'il ne mangeait pas. Ça, c'est quand même dur. Mais voilà ce qu'il est dit. On va juste lire du verset 6 à 12. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens d'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer, quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, ton obscurité sera pareille à la clarté du midi, l'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins, dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, une source d'eau qui n'arrête jamais de couler. Et j'aime bien l'expression, et je ne sais pas si on a la même traduction ici, au verset 12, est-ce qu'il va arriver ? Voilà, tu ne l'as pas, toi. Moi, j'ai dans ma Bible, grâce à toi. Grâce à toi, on reconstruira. Sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés, etc., etc. Amen. Grâce à toi. Grâce à toi. Ce matin, on peut être des grâces à toi. Il y a eu en Alsace, cet épisode tragique pendant la Deuxième Guerre mondiale, les malgré nous. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Quand ils sont rentrés, je veux dire, il y a eu des procès, etc. Que nous soyons des grâces à toi ce matin, afin que même dans la fatigue, même dans l'incompréhension, même dans les préjugés, Dieu s'en serve pour nous construire, pour nous édifier, pour nous restaurer, mais aussi pour être une source d'eau vive pour celles et ceux qui sont autour de nous. Amen. Alors que ce matin, bien, nous puissions être ces frères et sœurs en Christ, des grâces à toi. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, transformer nos « à cause d'eux » en « grâce à toi ». Amen. Nous bénissons. C'était une seconde, il me semble. gros caractère. Je ne sais pas si ça influe. Second 21. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce. Parce que grâce à toi ce matin, grâce à tes paroles, grâce, Seigneur, à ce que tu es venu apporter dans nos vies, il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement. Et je prie ce matin pour des frères et sœurs qui vivent à cause d'eux. Oui, des défaites, peut-être de l'amertume, du regret, des choses, Seigneur, qui les font souffrir. Je te prie de les bénir. Parce que c'est vrai, il y a des situations dans nos vies où à cause d'eux, nous sommes fatigués, nous sommes usés, nous sommes découragés, nous sommes incompris et nous sommes méprisés. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, pour que tu te serves des « à cause d'eux » en grâce à, afin que dans ces moments difficiles, il y ait quelque chose de divin du ciel qui se passe pour que nos frères et sœurs trouvent en toi, par toi, Seigneur, le meilleur, quelque chose sur lesquels ils vont pouvoir se fonder, quelque chose peut-être qu'ils vont apprendre d'eux-mêmes et guérir de certaines blessures, de certaines choses difficiles. Seigneur, tu es bon ce matin avec chacun d'entre nous. Et nous croyons que dans ces moments que nous allons vivre grâce à toi, nous serons nous-mêmes aussi des sources d'eau vive pour celles et ceux qui autour de nous ne te connaissent pas encore. Nous te demandons ces choses ce matin dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta bonne main soit sur mes frères et sœurs, afin que nous ressortions de ce lieu renouvelés, fortifiés, grâce à toi. Merci Seigneur pour ta bonté dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Et c'est dans cet état d'esprit ce matin, eh bien, qu'on va prendre la Sainte Cène, hein, qu'on va dire Seigneur, c'est vrai, il y a peut-être encore un à cause d'eux. Eh bien, Seigneur, en prenant cette Sainte Cène, je veux réaliser que toi, tu veux transformer en grâce à. Et que moi qui vais bénéficier de ta grâce ce matin, je veux aussi la partager. Hein, je veux aussi la communiquer autour de toi. Amen. Est-ce qu'on pourrait demander à Anne-Marie, à Céline et peut-être aussi à Rouben, hein, s'ils veulent bien venir sur le devant pour présenter la Sainte Cène et puis la partager aussi. Voilà, on va demander à nos frères et sœurs de venir et puis on va pouvoir se lever, nous qui sommes baptisés par immersion, prendre encore quelques instants ce matin pour bénir Jésus.